Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio, le rendez-vous à chaque début de mois pour parler de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous écoutez Des ondes vocastes, bienvenue.
Des ondes vocastes.
Si vous êtes passionné par le monde du broadcasting et du podcasting, vous allez encore une fois être ravi. Premièrement, on va parler d'un aspect de la radio assez peu traité à mon sens, celui de l'écriture. Nous écoutons nos animateurs et animatrices préférés au quotidien, mais derrière leurs interventions se cachent souvent d'excellents auteurs, des personnes qui sont là pour écrire à l'avance ce qu'on entend. On va en apprendre un peu plus dans un instant avec Alexandre Montero, actuellement auteur du Virgin Tonic avec Manu Payette sur Virgin Radio. Ensuite, pour la partie innovation et technologie, on parlera de web monétisation, une proposition de standard web peu connue car très récente mais très prometteuse. L'idée, l'internaute paye un abonnement unique et rémunère automatiquement les éditeurs des sites web qu'il visite en fonction du temps passé dessus. Des applications analogues, notamment pour les podcasts, voient le jour et c'est un modèle sûrement très intéressant pour le futur des médias. On écoutera un court extrait de l'édito, le reste est disponible au sein du flux Premium, rendez-vous sur premium.vocast.fr. Et finalement, pour la partie historique de cet épisode des ondes vocastes, cette fois-ci, nous allons traiter des liens entre le foot et la radio au fil des années. Nous en parlerons avec Johnny Pilate, auteur d'un mémoire intitulé « Football et radio », analyse des rapports à travers l'histoire des multiplexes de 1975 à 2012, et ce sera comme toujours l'occasion d'écouter des archives. Vous écoutez des ondes vocastes, on commence l'émission tout de suite avec un focus sur le métier d'auteur en radio avec Alex Montero.
Des ondes vocastes, le tour des ondes en 80 tours.
Les auditeurs n'en ont pas forcément conscience, mais c'est ce qui fait largement la différence entre deux émissions de radio, le travail des auteurs, c'est-à-dire des gens qui dont leur rôle est dédié à la préparation, à l'écriture. Et je suis ravi de pouvoir en parler avec Alexandre Montero, qui a été auteur pour le Morning de FG, auteur pour Manu dans le 6-9 sur Énergie, puis pour Camille Combal sur Virgin Radio. Aujourd'hui, Alex, tu es auteur pour la matinale de Virgin depuis septembre. Tu écris pour l'équipe menée par Manu Payette. Merci Alex d'avoir accepté l'invitation.
Salut Anthony, bah avec plaisir. C'est un plaisir de parler du métier d'auteur parce que c'est assez rare.
Pour cette saison 2020-2021, Camille Combal a laissé sa place à Manu Payette et on retrouve aussi une voix off bien particulière cette année. Pour le générique, c'est celle de Gérard Darmon. Alors pour ceux qui ont raté la première matinale à 7h le 24 août, voici le tout début avec justement une intro de Gérard Darmon.
Qu'il ne s'est plus réveillé aussitôt. 15 ans qu'il n'a plus appuyé sur un bouton pour allumer un micro. 15 ans que vous étiez enfin tranquille pour aller bosser. Tout ça pour revenir. Il y a 15 ans, vous y étiez où, vous? Moi? Moi, j'étais en Bavière. Je travaillais dans les champs, je ramassais l'orge pour un gros brasseur de bière. Et quand j'ai mis assez d'argent de côté, je me suis offert un nouveau corps pour devenir celui que j'ai toujours voulu être. Un homme.
Gérard, c'est bon.
Ah, on me dit qu'il est prêt. Et lui? Qu'est-ce qu'a fait Manu Payet pendant 15 ans? Mais je crois qu'il a toute l'année pour vous le dire. Manu Payet est dans le Virgin Tonic. Et ça commence maintenant.
Fait assez rare, hein. Seul l'animateur principal a changé. Toute l'équipe qui était avec Camille Combal est restée, à commencer par toi en tant qu'auteur. Tu as débarqué sur Virgin Radio au moment de l'arrivée de Camille Combal à l'antenne fin août 2014. Concrètement, toi, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu prépares au quotidien en tant qu'auteur de la matinale? Sous quelle forme ça se présente, ce que tu fais?
Ouais, c'est un métier qui peut paraître bizarre comme ça, parce qu'on n'en parle jamais. Ben, on prépare un peu tout et rien. C'est un peu bizarre, mais... On prépare des news pour le lendemain, des jeux souvent avec l'équipe, et puis grosso modo, on se base sur la vie de l'équipe pour la traiter du mieux possible à l'antenne le lendemain, quoi. On prépare tout mais rien parce que après, une fois à l'antenne, tout l'inverse peut se passer. On prépare un truc qui peut être très différent à l'antenne.
Mais je veux dire, est-ce que tu prépares plus des jeux, plus des réponses aux questions, ou alors les sujets qui vont être traités durant toute la matinale?
Non, on écrit les grandes lignes, en fait. On prévoit un peu où est-ce qu'on va aller, mais jamais vraiment ce que vont dire Clément, Ginger, Mélanie, Nico, Manu. Non, on prépare les grandes lignes et les jeux surtout, parce que ça, ça demande quand même un peu de préparation. Ouais.
Alors pour la préparation des jeux, c'est qu'en gros, vous écrivez les questions, vous faites ce travail de recherche de concept de jeu.
Bien sûr, il y a un autre auteur qui s'appelle Romain Céliciato. On a un espèce de ping-pong, en fait, où on se dit, ah, c'est pas mal de faire ça comme jeu, et peut-être plus comme ça, non, et puis comme ça, et puis après on essaie de proposer à Manu, à l'équipe, selon qui va faire le jeu à l'antenne, ce qui peut être le mieux, ce qui peut leur plaire.
Mais est-ce que vous co-écrivez ensemble avec le reste de l'équipe, ou en gros, vous vous préparez à deux les grandes lignes, et puis eux, ils prennent le script, et après ils avisent?
Tout se fait dans le dialogue, parce que nous, on n'est pas à l'antenne, c'est l'équipe qui est à l'antenne. Donc nous, on propose vraiment les grandes lignes, ce dont ils ont envie de parler. C'est un échange. Et aussi, ils nous disent, bah moi, il m'est arrivé ça, donc peut-être qu'on peut en parler. Parfois, ça se fait pendant l'émission. En fait, faut qu'on parle de ça. Bah, ok, bah go. Tout se fait en dialogue, en commun. Et puis, à part pour les jeux ou les news, où là, on se dit avec Romain, c'est peut-être marrant de faire ça, donc on le propose. Et puis voilà.
Tu avais déjà bossé sur Virgin en 2010, puis sur FG durant la saison 2011-2012. Avant ouais. d'intégrer l'équipe de avec Camille Combal, tu étais auteur au cours de la saison 2 de la matinale Manu dans le 6-9 sur NRJ. Donc on voit trois mornings de radio musicale. Est-ce que tes missions et productions diffèrent en fonction des radios? Y a-t-il des particularités selon les radios, selon les équipes même pour lesquelles tu dois écrire?
C'est plus par rapport à l'animateur pour qui tu travailles, enfin ou avec qui tu travailles. Parce que il faut se mettre vraiment dans la bouche de l'animateur. Parce que quand tu prépares une news, tu dois vraiment te mettre dans, voilà, qu'est-ce que va dire Camille, qu'est-ce que va dire Manu, quel est sa verbatim, quel mot il emploie régulièrement pour que lui, quand il prend la feuille, directement, il soit dans la news, en fait. C'est vraiment de l'adaptation. Et c'est valable pour la radio, comme pour le spectacle, comme pour la télé, comme pour le cinéma. Il faut que l'auteur s'adapte à la personne pour qui il travaille.
Alors ben justement, en plus d'écrire pour la matinale de Virgin en radio, tu as aussi écrit pour la télé, notamment pour la séquence Il en pense quoi Camille sur C8 dans ouais. On touche pas à mon poste. J'ai vu ouais. aussi ton nom sur l'affiche du spectacle de Clément Lanoux, donc Clément Lanoux qui fait aussi partie de l'équipe du Virgin Tonic qu'on peut entendre tous ouais. les matins. Mais est-ce que vraiment tu trouves quand même que l'exercice est complètement différent si c'est pour de la télé ou du one man show comparé à spécifiquement un morning radio?
C'est totalement différent. C'est vraiment une autre écriture. Si tu veux, l'écriture d'un morning radio, il y a vraiment un truc qui est vraiment proche des gens, de l'intime du matin, qu'il n'y a pas à la télé. Et sur spectacle, c'est encore différent. Là, c'est vraiment carrément autre chose. Nous, on a écrit avec Clément et Pierre-Paul, Audi. Et après, en fait, on ne fait que rajouter des choses au fur et à mesure du spectacle. Alors que la radio et la télé, tu fais, le lendemain matin, c'est une feuille blanche, tu refais, le lendemain matin, c'est une autre feuille blanche, et voilà, ainsi de suite. C'est un éternel recommencement, alors qu'un spectacle, c'est vraiment différent parce que t'as tous les jours de nouvelles choses à apporter au spectacle et t'as toujours la même base.
Alors justement, tu as dit aussi tout à l'heure que tu avais un autre auteur avec toi pour Virgin Tonic.
Ouais, il y a Romain Céliciato qui coécrit avec moi l'émission et son histoire est marrante parce que lui, il a commencé standardiste. En s'intéressant, en bossant pas mal, en regardant ce qu'on faisait, etc. Il a proposé des vannes, des jeux, des trucs. Et quand il y a eu une place de libre, on lui a dit « bah mec, viens ».
Et comment ça se passe à plusieurs? Parce que tu as déjà eu l'occasion de travailler seul et là tu travailles à plusieurs. Déjà, est-ce que ça change vraiment ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a une certaine organisation à suivre?
Moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences avec les autres auteurs. J'ai jamais eu d'auteur un peu relou qui voulait genre imposer ses idées ou machin. Et ça peut arriver apparemment, mais moi ça n'a jamais été le cas. Mais nous, ce qu'on fait là avec Romain, et même avec d'autres avant, chacun écrit ce qui lui touche le plus.
Pour revenir à Manu Payet, ce qui fait très plaisir à entendre, c'est qu'on sent qu'il est passionné, qu'il redécouvre l'amour de la radio. Il parle ouais. beaucoup, notamment de cadrage, le fait de faire des intros sur les sons. J'étais agréablement surpris de l'entendre le 9 novembre dernier évoquer les 39 ans de la libération des ondes. Alors dit comme ça, c'est pas forcément amusant, mais pourtant c'est très bien amené. C'est une séquence vraiment sympa. Écoutez.
C'est une date importante justement pour la radio. Le 9 novembre 1981, François Mitterrand, c'était le président de la République de l'époque, décidait de libérer les ondes. C'était la fin des radios pirates, parce qu'avant on n'avait pas le droit d'être une radio si l'État n'avait pas, tu vois, parce que c'était validé. L'État qui avait le monopole. Et l'État donc lâchait à cette date son monopole et c'est à ce moment-là qu'on a découvert les radios musicales. Ça a donné naissance donc à des radios comme RFM, à des radios comme Énergie, à des radios comme... Tiens, nous c'était à l'époque, on s'appelait Europe 2, ouais. avec Programme Europe 2, écoutez ça. C'est vrai qu'il y avait ces jingles. il y avait ces jingles là. Ouais. 1981, c'était aussi l'époque des premiers animateurs, évidemment, et c'était les animateurs stars. Fredo a travaillé avec une des grandes stars de la FM de l'époque, et on l'embrasse très fort, Marc Scalia. Ouais. On lui fait un gros bisou à notre Marc Scalia national. On peut dire national. À l'époque, c'était vraiment la grosse vedette. Il présentait une émission que réalisait Fredo à l'époque, qui s'appelait Star Match. C'était la vedette. Ah bon, on disait vedette. C'était ouais. l'époque aussi où les animateurs parlaient avec un timbre un peu années 80.
Ouais, un petit côté DJ un peu quoi, tu vois.
Et il s'écoutait vachement.
Ouais. Ah bah il s'écoutait vachement, c'était les casques, ils étaient à 2000%. Ouais. Depuis sur Wiz FM, la Louise avec Nathalie Ostanda pour nous joindre, passer vos messages. Vous nous appelez 16 47 38 5000. On vous offre le 45 tours. Oui. J'ai bien dit le 45 tours, vous n'en avez pas, nous vous l'offrons ici sur votre radio. Un tout jeune artiste qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Je sais pas encore comme il vient d'arriver, est-ce qu'il s'appelle Goldman ou Goldman? Pas encore la réponse à cette question, il viendra lui dire lui-même.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a moins de 30 ans, car il s'appelle Jean-Jacques.
Extrait donc de la dernière heure de la matinale Virgin Tonic du 9 novembre entre 10h et 11h. Alors donc justement, dans cet extrait, dans cette séquence qu'on vient d'écouter, quelle est la part d'écriture, ton intervention à toi dans cette séquence-là, et quelle est la part d'improvisation?
Quelle est la part d'écriture et d'impro? Nous, en fait, on a soumis l'idée de faire le jeu du cadrage qui suit derrière la séquence. Parce que, en fait, on a vu la news, on disait, c'est dingue, on est le 9 novembre, il y a 39 ans, c'était la libération des ondes. Et comme on sait que Manu est fan de cadrage, c'était un peu du tout cuit dans le bec, quoi. Donc on s'est dit, on fait ça, on propose ça à Manu. Et puis après, il y a une part d'impro, il y a la trame de l'animateur années 80, Wiz FM, il y a écrite, je crois, si je m'en souviens bien. Goldman, machin.
Non, mais voilà, surtout, c'est qu'à la fin, Clément qui dit il a moins de 30 ans parce qu'il s'appelle Jean-Jacques, j'ai trouvé ça génial. C'était écrit ou c'est une impro, ça?
Non, ça c'est Clément, ça c'est jamais écrit. On fait les grandes lignes de l'émission. Parfois, ça part en cacahuète. Surtout, Manu, tu lances sur un truc, il peut exploser, partir sur autre chose, et il en fait un tout autre speak, et l'équipe suit.
Vous avez proposé typiquement ce sujet, mais ça ne peut coller qu'à Manu Payet, justement. On se souvient juste Manu Payet qui s'était lancé là-dedans dans Burger Quiz, et la séquence avait été énorme.
C'est le taf d'un auteur. C'est pour Camille, ça aurait été peut-être autre chose. Pour Manu, c'était les intros, ça tombait sous le sens, quoi. Et c'est là où, en fait, il y a un vrai taf de proximité avec le mec pour qui tu bosses. C'est que tu sais que ça va lui plaire, ou pas.
Et alors justement, niveau inspiration, sachant qu'il faut apporter systématiquement de quoi réaliser les 4 heures d'antenne tous les jours de la semaine, comment tu t'y prends? Enfin, quelles sont tes mécaniques, tes sources, tes outils pour fournir au jour le jour le nécessaire pour l'émission?
J'écoute la concurrence et je copie-colle. Non, bien sûr que non. On se sert beaucoup de l'actu. Même si en ce moment c'est pas non plus la folie en termes de pourcent, voilà, mais le programme télé, en fait, tout peut être prétexte à une discussion. C'est ça qui est génial au final, c'est que tout peut être prétexte à parler d'un truc. Je sais pas, s'il y a Armageddon à la télé, on va en parler. Si c'est la journée mondiale des glaces, on peut en parler. Tout peut être prétexte à discussion, et c'est pour ça qu'il faut pas se mettre de barrières, de filtres, parce que on peut parler de tout, en fait. Ça c'est vraiment cool.
Tu dis que tu écris beaucoup en fonction de l'équipe, mais jamais vraiment sur l'audience cible. C'est-à-dire que si tu étais sur une autre radio, est-ce que tu écrirais, même pour la même équipe, est-ce que tu écrirais autre chose ou différemment?
C'est une bonne question. Il faut aussi que l'auditeur soit concerné par ce qu'on dit, c'est une évidence. Mais pour qu'il soit concerné, il faut que l'équipe soit aussi concernée par ce qu'elle dit. Et il faut qu'elle soit en phase avec l'audimat. L'auditeur de Virgin type, en fait, il ressemble un petit peu à l'équipe du Virgin Tonic.
Et est-ce que ça t'arrive d'être totalement à court d'idées, quoi? Est-ce que t'as des procédés pour t'en sortir dans ces cas-là?
Ouais, après, il y a des jours sans, on peut pas se mentir.
Bah oui, tu peux pas être inspiré tout le temps, quoi.
C'est pour ça qu'on est deux, il y a Romain. C'est pour ça qu'il y a l'équipe aussi. Franchement, l'équipe, elle aide beaucoup pour donner du contenu, parce qu'eux aussi, ils ont des vies, eux aussi, ils vivent des choses, et ils peuvent aussi t'aider à t'emmener sur des pistes. Et l'émission est beaucoup basée sur leur vie.
Alors, on va s'écouter un dernier extrait. J'avais pas mal d'exemples à diffuser pour montrer que je trouve vraiment cette matinale intéressante, notamment sur le plan de l'écriture, sur ton travail. Parce qu'en fait, on sent une certaine bonne humeur à l'antenne. Ouais. Cette bonne humeur à 100 ans, par exemple, lorsque Manu Payet perturbe le présentateur des Flash Nationaux, donc qui s'appelle Tristan Sarah. Et ouais. Donc voici un extrait datant du 20 novembre, vendredi 20 novembre, 9h. Écoutez.
Des remixes et une démo au piano.
Vous avez dit remix.
Oui, j'ai déjà dit ça, oui. Lady Gaga attendue le 25 juillet au Stade de France. M propose lui son grand petit concert en DVD, dispo seul ou dans un grand petit coffret. Et puis le groupe belge Balthazar qui diffuse son nouveau single Loser, extrait du prochain album de Balthazar le 29 janvier. Ouf. Voilà pour l'actu tout de suite, c'est Manu. Bon réveil, bon week-end.
Je me dis qu'en France, en ce moment, l'organisation du télétravail doit être compliquée quand même pour vous. Peut-être même qu'en ce moment, il y a des gars qui se sont levés, qui ont pris la voiture, qui ont fait le trajet, se taper tous les feux rouges, etc. pour arriver en même temps qu'un autre collègue et se dire « Merde, en fait, c'était à mon tour d'être en télétravail aujourd'hui. » Quand tu vois la tête de l'autre sur le parking du boulot. J'ai une bonne nouvelle pour vous quand même. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est bientôt le week-end. Il est 9h01, bonjour.
Salut.
Bonjour. Bonjour et bienvenue dans le Virgin Tonic de ce matin. Bonjour les paillettes.
Salut Manu.
Alors justement les intros là, comme on a entendu les intros de Manu, est-ce que c'est toi qui les écris par exemple?
Ouais, alors ça je suis content que t'en parles parce que parce que c'est une volonté de Manu de faire ça, mais moi ce que je veux vraiment souligner c'est le jeu de Manu là-dedans.
Ouais.
Parce que le texte nous on l'écrit c'est cool, mais lui il sublime ce qu'on écrit quoi, ça c'est dingue. On essaie de retranscrire des moments de vie que pourraient vivre les auditeurs qui nous écoutent à ce moment-là. Mmh. On se dit mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment, peut-être qu'ils sont dans la voiture. Tiens bam, vas-y on cadre un truc là-dessus quoi. Franchement s'il fait la diff, c'est le jeu de Manu quoi.
Bien
parce
sûr.
Que là surtout sur celui-là là, c'est incroyable.
Alors il y a aussi un aspect, c'est que on sait qu'en radio ces phrases d'accroche après le flash sont très importantes pour capter l'audience. C'est un des exemples hein, où l'écriture doit vraiment s'adapter à l'heure de diffusion. Mais justement si tu étais amené à continuer à être auteur mais pour un format identique hein, à celui de la matinale Virgin Tonic, mais cette fois-ci si c'était pour une émission non plus en direct mais exclusivement en podcast, enfin en délinéarisé comme ce que propose depuis peu Spotify aux États-Unis, une matinale voice track on va dire, avec de la musique personnalisée, est-ce que toi dans ce cadre-là, si tu devais être auteur pour une émission comme ça, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas dans ta façon de faire?
Franchement je pense pas. Dans les faits, la construction, la réflexion resterait approximativement la même. Mais je trouve que la matinale, il y a un rapport à l'intime qu'il y a pas ailleurs. T'es chez les gens, tu réveilles les gens, t'es pas avec eux, mais tu l'es quand même plus que sur n'importe quelle autre tranche.
Tu sens une certaine connexion directe avec l'auditeur, en fait, parce que c'est en direct.
Ouais, franchement, j'aurais du mal à penser que tu puisses avoir ce même sentiment-là en faisant cette émission, en enregistrant 5 émissions à la suite, entre midi et 18h.
Et comment tu envisages l'évolution de ton métier? Est-ce que tu constates déjà des changements depuis 10 ans sur le métier d'auteur et particulièrement pour la radio?
Clairement, où avant on faisait de l'humour, maintenant on fait de l'humeur, on accompagne les gens. Enfin, ta question de comment je vois le métier dans 10 ans, je n'ai absolument aucune réponse parce que en un an, là déjà, c'est le bordel. Je pense qu'il y a toujours eu des gars qui ont écrit pour d'autres gars en radio, que ça reste à peu près la même mécanique. Après, c'est juste l'époque qui change, quoi. Mais dans ce que t'écris, ça reste à peu près les mêmes sensibilités, je pense.
Merci Alex d'avoir pris le temps d'expliquer plus en détail en quoi consiste la préparation, l'écriture d'une matinale pour une radio musicale.
Merci Anthony pour ton invitation, parce que on me dit « Ah, mais en fait, c'est toi le gars marrant de l'émission, c'est pas lui qui est à l'antenne ?» Si, c'est le gars qui est à l'antenne qui est vraiment drôle, parce que nous on est juste là pour que lui soit drôle tout le temps. En soupape on aide un petit peu le gars, mais sinon le mec à l'antenne est vraiment plus drôle que nous généralement. Voilà.
Et en plus il est modeste, Alex. Il est parfait. Et on parlait de l'évolution impossible des usages autour de l'écoute de la radio. Je vous propose aussi de parler de nouvelles façons de rémunérer le média. La publicité, notamment sur Internet, présente ses limites. Les spots publicitaires détériorent trop l'expérience d'écoute. Et même le brand content commence à être utilisé à outrance, sûrement à tort. D'un autre côté, on constate aussi la souscription fatigue, hein, le trop-plein d'abonnements et d'appels aux dons côté utilisateur. Face à ce constat, une proposition... web monétisation. Un court extrait du contenu premium du mois, on en parle tout de suite dans la partie innovation du podcast.
Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir.
Un média peut se financer de plusieurs façons sur Internet. J'avais d'ailleurs listé plusieurs modèles de monétisation pour les podcasts dans l'épisode de mai 2019. Cependant, quel que soit le système adopté, l'expérience utilisateur est toujours dégradée. Multitude d'abonnements mensuels à combiner, interface bombardée de publicités invasives, ou même contenu qui se transforme tous petit à petit en public communiqué. Bref, à mon sens, le temps est quand même venu de repenser l'économie des médias sur le web. Et justement, web monétisation est une récente spécificité visant à proposer une nouvelle façon de rémunérer les éditeurs. Et on va en parler avec Benjamin Bellamy, fondateur de la société Adores et à l'origine de Castopod, une plateforme open source d'hébergement de podcasts. Bonjour Ben.
Bonjour Anthony, merci à toi de me recevoir.
Alors nous parlerons ensemble de la solution Castopod dans le prochain épisode, mais là avec toi Benjamin, on va parler de web monétisation. Tu suis avec attention tout ce qui concerne l'économie du web pour les médias et on va voir ensemble en quoi ces projets autour de web monétisation sont très intéressants, très prometteurs, notamment pour les radios et les podcasts.
Oui, alors avant de répondre, il me semble important de cerner le contexte, que ce soit sur Internet ou ailleurs, les contenus appréciés doivent être de qualité, sans pub et gratuits. Et avoir les trois en même temps, ça peut être une exception, mais ça peut pas être la règle. Je pense que la publicité peut très bien fonctionner quand elle est respectueuse et pas trop idiote, et qu'elle permet d'avoir des contenus de qualité et gratuits. Mais faire de la publicité respectueuse et intelligente, c'est compliqué, et de plus en plus d'acteurs se tournent vers des modèles payants ou assimilés. Abonnement, pourboire, financement participatif ou micro-paiement. Donc le micro-paiement, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. L'idée toute simple derrière le micro-paiement, c'est de rendre les paiements aussi simples qu'avec du cash. Aujourd'hui, si je vais dans un kiosque à journaux où j'ai jamais mis les pieds, et si je veux acheter un journal, je sors une pièce de 2 euros et puis c'est fini. En revanche, si je souhaite acheter un article d'un site où je viens pour la première fois et sur lequel j'ai pas forcément prévu de revenir, en général, le site va me demander mon adresse email, mon adresse postale, ma date de naissance, etc. Et puis, il va finir par me demander un mot de passe unique de plus de 8 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Et puis enfin, il va me montrer des photos sur lesquelles il faudra que je clique sur les vélos, les bateaux et les passages cloutés. Alors, si c'est pour un abonnement qui me fait vraiment envie, je vais accepter de subir tout ça. Si je suis là juste par curiosité, j'ai quand même peu de chances d'aller au bout. Évidemment, si pour résilier en plus, il faut que j'envoie un courrier papier en recommandé avec accusé de réception, là, c'est encore moins sûr.
C'est même pas une caricature, hein. Il y a vraiment des services qui t'obligent à envoyer un recommandé hein, pour te désabonner sur
existe,
Internet.
Ouais. Donc, web monétisation, c'est la réponse technologique à ce problème. Comment faire pour qu'un internaute qui vient pour la première fois sur un site puisse payer le contenu aussi simplement qu'il sortirait une pièce de 2 euros de sa poche? Donc, web monétisation, c'est une librairie gratuite, libre, ouverte, qui permet de faire ça. Le projet a par ailleurs été proposé à l'organisme W3C pour devenir un standard du web.
Alors, les développements autour de web monétisation sont très récents. Il y a encore très peu de programmes qui se basent dessus, mais pourtant, la mise en place est simple et rapide, autant pour les utilisateurs que pour les éditeurs. Voilà pour l'aperçu de l'édito Innovation. La suite complète est à retrouver en version texte gratuitement sur blog.vocast.fr. Le lien est dans la description. La version en audio est à écouter via Des Ondes Vocast Premium. Rendez-vous sur premium.vocast.fr pour devenir membre et obtenir votre lien d'accès personnel. On enchaîne avec la dernière partie de l'épisode, comme toujours dédiée à l'histoire de la radio. On va parler tout de suite des relations entre le foot et la radio à travers le temps.
Des Ondes Vocast, les archives.
Pour la partie archive de l'épisode, on ne va pas se pencher sur l'histoire d'une radio en particulier, mais plutôt cette fois-ci sur les relations entre le football et le média radio au fil des années. Pour en parler, je reçois quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet, Johnny Pilate, chargé de programmation et de conduite antenne chez RMC Sport. Bonjour Johnny.
Bah, salut Anthony. En tout cas, je suis très honoré par ton invitation et ravi d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est totalement passionnant.
Alors toi Johnny, tu as mis en ligne sur Medium 8 articles très complets sur l'histoire du multiplex à la radio. Tu as aussi publié des articles sur les relations tumultueuses hein, entre le média et l'industrie du foot de 1950 à aujourd'hui. Ces textes sont extraits de ton mémoire de recherche intitulé « Football et radio, analyse des rapports à travers l'histoire des multiplexes » de 1975 à 2012. Alors pour Des Ondes Vocastes, tu as accepté de revenir sur le fruit de tes recherches, on va dire, mais on va pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, et donc on traitera ce sujet sur deux épisodes. Et pour cette première partie, on va surtout se concentrer sur les débuts, les premiers concepts amenant le foot à la radio. On évoquera sport et musique, la naissance du multiplex, puis interfootball, entre autres. Pour commencer, Johnny, à quand peut-on dater la première retransmission de sport en direct à la radio ?
En France, on peut dater ça de 1923. En fait, donc c'était sur la station Radio-Gra. Et pourtant, c'est pas du foot. À l'époque, c'était de la boxe. Donc en France, c'est la station Paris Tour Eiffel qui commence à émettre dans une diffusion d'émissions régulières à partir de décembre 1921. Et un an et demi plus tard, se déroule du coup ce premier radio-reportage sportif. Il est mené par une figure de l'époque, c'est Edmond de Horté. On est en direct du Stade Buffalo, on est aux portes de Paris, et c'est à l'occasion d'une rencontre de boxe, d'un combat de boxe même pour dire. Comment ça se passe en termes de dispositif ? Alors, c'est assez bizarre, donc c'est un journaliste, donc c'est Edmond de Horté, qui transmet grâce à une liaison téléphonique les commentaires du match qui se déroule sous ses yeux à la secrétaire, donc qui est présente dans l'auditorium de la radio privée, donc la radio-là, et qui retranscrit toutes ses phrases par écrit. Et à la fin de chaque round, elle transmet les notes à Marcel Laporte, qui est l'une des voix mythiques de la station, qui, grâce à ses talents de comédien, narrait la rencontre aux auditeurs.
Alors que lui-même, il n'assistait pas à cette rencontre, en fait. Il le faisait vivre alors qu'il ne faisait que lire les notes. C'est plutôt ingénieux comme système pour l'époque. Il y avait quelques minutes de différé, mais c'est pas forcément gênant. Par contre, en revanche, à cette époque, il y avait quand même très peu de récepteurs radio au début des années 20.
À l'époque, il y avait seulement une poignée de Français qui avaient des récepteurs radio qui étaient créés de manière un peu artisanale, on appelait ça les sans-figuistes, ou bien il y avait les premiers modèles de poste TSF. Donc cette couverture médiatique du sport à la radio, à cette époque, ça apporte enfin une véritable révolution.
Alors en 1945 apparaît une nouvelle émission de radio d'un nouveau genre qui s'appelle Sport et Musique, c'était sur Paris Inter. Comme son nom l'indique, hein, cette émission du programme parisien de la RDF, donc la RDF c'était la radiodiffusion française, la radio d'État. Donc cette émission consistait, Sport et Musique, à présenter des reportages sportifs en direct entrecoupés de morceaux musicaux, c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça, ouais. Sport et Musique c'est une émission dominicale donc qui est diffusée entre 15h30 et 18h. Donc on coupe régulièrement les morceaux de musique pour faire vivre des rencontres de sport, notamment de football ou de boxe, qui sont un peu les deux sports du moment à cette époque. Donc le programme, il donne aussi la parole aux sportifs, et qui se retrouvent ainsi dans une tribune pour s'exprimer à la fin du programme. Donc l'émission, elle est créée par Alex Viro, 25 février 45 pour sa première. Elle va ensuite être incarnée par Georges Briquet pendant des années, hein, qui va être la figure référente de ce programme, qui en prend la tête dès son retour des camps d'Dachau où il avait été déporté en 44.
Alors l'indicatif de l'émission Sport et Musique était à l'origine une chanson interprétée par André de Sarry. On l'écoute.
Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse, qui se moquant de la gloire, vole vers la victoire. Chantons tous en cœur, les performances et les vainqueurs, allons sans peur, les joyeux efforts, ivres d'efforts, chantons vive le sport.
Donc voilà, Johnny, si tu veux donner des idées à RMC, hein, de générique pour les émissions de sport, tu peux proposer ça.
C'est bien d'une autre époque. Ça, c'est d'une autre époque, c'est sûr.
Donc c'était le générique de sport et musique, hein. Donc c'était une émission de la radio française d'État, hein, dans la deuxième moitié des années 40. Du coup, alors Johnny, on retrouve du foot dans cette émission, sport et musique?
On retrouve beaucoup, beaucoup de sport, et il y a du foot exactement. Mais pas que. On retrouve du rugby à 15, ce qu'on appelle aussi le jeu à 13, en fait, qui est aujourd'hui rugby à 13, de la boxe, du basket, du cyclisme, du cross, et en fait, toutes les rencontres qui peuvent être disputées ce dimanche-là, en tout cas dans le calendrier des manifestations sportives. Pour couvrir un maximum d'événements, bah en fait, l'équipe de sport et musique, elle sillonne toutes les routes d'Europe, autour de Georges Briquet, donc il s'appuie sur une équipe de 6 reporters. Les trois premiers, on va les retrouver très vite, plus tard à la télé, sur l'RTF, il y a Loïs Van Guy, Jean Quittard et Raymond Marcillac. Et les trois autres, on va les retrouver un peu plus tard sur une autre radio, c'est Patrick Saint-Maurice, André Bourillon et André Bibag. Et en plus de ça, bah, plus l'émission va grandir, plus l'émission va avoir besoin de nouvelles voix pour couvrir de plus en plus de sports. Du coup, ce chef du service des sports, bah, il va faire intervenir pour ces manifestations de nouvelles voix, À Marseille, on va découvrir Bruno Delay. À Lyon, Max Nicolas. Il y aura Grenier à Strasbourg, Maurice Jacquet à Nancy, Jean Crinon à Lille, et etc. Et ça va permettre à la radio de pouvoir courir de plus en plus de manifestations.
Alors, pour résumer, du coup, Sport et Musique est une émission omnisport qui a vocation à retransmettre le plus de sport possible. Mais du coup, rapidement, en fait, l'un d'eux va sortir du lot. Et bon, bah, ce sport qui sort du lot, c'est sans surprise le football. Comment on peut l'expliquer, ça, que le football prend le dessus sur les autres sports?
Il y a deux choses. Georges Briquet, il met en avant dans pas mal d'interviews deux notions. La première, c'est qu'il juge le football simplement comme le sport le plus radiogénique, celui qui se raconte le mieux. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, bah, en France, dans les années 50, le football est déjà le sport le plus populaire. Il recevait beaucoup de lettres de supporters, notamment de rugby, qui se plaignent de ne pas avoir assez de rugby et trop de football. Il leur a répondu un jour dans un magazine, c'était le Radio Ciné Télévision, avec cette phrase, le rugby est surtout, à part à Paris, pratiqué dans le sud de la Loire. C'est ainsi qu'il n'y a guère que 600 000 postes de réception déclarés dans l'ensemble des régions rugby, alors qu'il y en a 5,5 millions dans les régions de football. Tout est dit, pour toucher le plus d'auditeurs, bah tout simplement, le football, ça parlait beaucoup plus que le rugby à l'époque.
Alors du coup, les auditeurs sont heureux de retrouver du foot à la radio, mais j'avais cru comprendre en lisant tes articles que, en fait, dans les années 50, ça peut paraître surprenant, mais le fait qu'il y ait du foot à la radio, ça inquiétait les organisateurs des compétitions.
Tout à fait. Au début des années 50... Les clubs étaient régis, la compétition de championnat de France de football, par le groupement des clubs, qui est l'ancêtre de la Ligue de football, qui organisait les compétitions. Bah, ils ont vu d'un très mauvais œil le fait qu'en fait, les rencontres puissent être diffusées en intégralité sur les ondes. Tout simplement, le calcul est de se dire, à l'époque, pour vivre le football, il fallait être dans le stade, ou sinon, voir le résumé le lendemain dans son quotidien. Là, la radio offre l'occasion de vivre le match en direct tout en restant chez soi, ce qui peut être choisi par certains supporters, par mauvais temps ou par froid hivernal. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque, les clubs de foot, bah, y a pas de revenus de droits télé. 80% de leurs recettes, c'est la billetterie. La grande peur, c'est de se dire que les supporters vont déserter les stades pour rester chez eux, l'oreille collée au poste de radio. Ce qui pourrait être un très très mauvais calcul économique.
Et surtout, c'est que les radios ne payent pas de droits de radiodiffusion, on va dire.
T'as tout à fait raison. Alors du coup, il y a beaucoup de tergiversations et de discussions. On trouve finalement un accord dans les deux parties. On choisit de ne plus communiquer sur les rencontres qui vont être diffusées pour ne pas influencer une baisse des fréquentations dans les stades.
Alors du coup, pour résumer jusqu'ici, on a commencé par parler de Radiola, qui a diffusé le premier retransmission d'un sport à la radio, c'était avec de la boxe. Ensuite, il y a eu Sport et Musique sur Paris Inter qui amène le foot à la radio. Mais finalement, le multiplex, c'est une autre radio qui l'a inventé.
Bah, le succès en fait de Sport et Musique, ça va donner des idées aux concurrentes. Et en concurrente, on va en citer une, c'est Radio Luxembourg. Et c'est là-bas que va naître le premier multiplex de foot en tant que tel. Donc pour se remettre dans le contexte, on est en octobre 51, Radio Luxembourg choisit donc de concurrencer la RDF en proposant également que dimanche après-midi des retransmissions sportives entourées de quarts d'heure musicaux. Donc le modèle est un peu différent, du coup on est sur une radio qui est déjà commerciale, et en gros chaque quart d'heure musical est offert et sponsorisé par un annonceur. Donc entre 15h et 17h10 s'installe l'émission concurrente de Sport et Musique, elle s'appelle le Dimanche des Auditeurs. La première est proposée par Alex Viro, qui avait lui-même créé Sport et Musique, et elle est présentée par André Bourillon.
Et c'est deux transfuges de Sport et Musique, même André Bourillon du coup.
Tout à fait, c'est ça. La première saison a fait un peu office de test, on est assez carré, on prend pas beaucoup de liberté. Et la deuxième, on change le réalisateur, on fait appel à quelqu'un de plus jeune, c'est Guy Bernet. Et lui, il va totalement mettre un coup de pied dans la fourmilière et rendre cette émission beaucoup plus moderne. Donc à l'époque, il a âgé de 24 ans et il se dit « Ok, j'ai moins de moyens, mais je vais essayer de faire plus de directs. » En réalité, sur Sport et Musique, on faisait pas autant de directs que ça. Il y a beaucoup de reportages qui étaient enregistrés pour pouvoir rentrer en tout cas dans l'émission. Là, les moyens sont très différents. On choisit d'être beaucoup plus souple et d'essentiellement insister sur le direct. Et en privilégiant, d'autant plus que foot, il y a moins de manifestations, mais on se concentre sur le football. Et donc cette histoire de création du multiplex, il faudrait revenir du coup ce dimanche 1er novembre 53, donc dimanche des auditeurs. Il y avait deux matchs qui étaient diffusés en même temps, Saint-Étienne-Toulouse et Strasbourg-Reims. Donc comme chaque semaine, les deux rencontres étaient choisies par Guy Bernet. À l'avant, c'était les rencontres qui commençaient généralement à 15h et qui étaient donc suivies en duplex avec un reporter dans chaque stade. Ce qui se passait bien, en tout cas, c'est qu'en fait, les rencontres démarraient leur seconde période avec souvent 5 minutes de décalage, ce qui permettait que chaque match finisse l'un avant l'autre et qu'on rate rien des dernières minutes du match. Or, ce dimanche-là, les deux matchs ont repris exactement en même temps. Et donc, Guy Bernhead décide de faire en sorte que les deux reporters qui sont dans les deux stades communiquent en même temps. Ils ouvrent un peu toutes les lignes. Tout le monde peut interagir l'un sur l'autre. En gros, on crée donc le multiplex de football à la radio. C'est une petite révolution sur les ondes.
Alors, le multiplex était déjà utilisé pour l'information et le reportage, mais c'était là, du coup, avec Radio Luxembourg, la première fois avec du sport, en fait. Et donc, cette innovation technique apporte un nouveau style dans la narration au rendez-vous sportif du dimanche après-midi. Et désormais, les reporters peuvent se parler directement et leurs commentaires s'enchaînent d'un stade à l'autre. Et ça, bah, du coup, sans forcément passer par le studio. C'est bien ça.
C'est tout à fait ça. Et la retransmission donc est beaucoup plus rythmée. Dès qu'un reporter sent qu'une action un peu décisive est sur le point de se jouer, il peut prendre la parole, couper l'autre. Il y a un sentiment un peu de cacophonie. C'est l'équipe magazine qui fera dans les jours qui suivent un papier assez critique sur cette formule. Mais les auditeurs, eux, ça les séduit parce qu'ils sont dans l'ambiance, dans le jus. Et ils peuvent savoir exactement ce qui se passe à l'instant T.
Et du coup, face à ce succès, bah, très rapidement, en face, hein, sport et musique s'adaptent à la concurrence et reprend cette formule. Mais cela inquiète de nouveau, et encore une fois, les clubs qui estiment bah, que les stades se vident au profit des programmes radiophoniques.
Alors, il y a des études qui ont été faites à l'époque. On ne sait pas vraiment si en réalité c'est le cas. En tout cas, la peur elle est présente dans les clubs. En 54, il y a un nouveau président qui est élu à la tête du groupement des clubs autorisés. C'est Pog Nicolas. Alors lui, il décide quelque chose de radical. Il dit « Ok, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc interdire la retransmission des premières mi-temps pour obliger les gens qui veulent vivre le match en intégralité à aller au stade. » Cette législation, elle est française, mais en réalité, elle est européenne. Ça va également se passer en Italie ou en Angleterre. Les radios vont se plier à ce choix et réorganiser leur programme, en tout cas en fonction de ces nouvelles contraintes. Au lieu de démarrer à 15h, les commentaires des matchs de foot débuteront désormais à 15h45.
Alors du coup, ce sont les Français qui inventent le multiplex. C'est en Italie que le concept va prendre la forme qu'on connaît aujourd'hui.
Avec l'arrivée de la télévision, la radio elle peine à se renouveler. Et les dirigeants de la RAI, donc la radio publique italienne qu'on connaît, bah, ils vont réfléchir à une nouvelle formule pour faire vivre le foot encore plus intensément. Et la formule, ils vont simplement la trouver en France en écoutant la RTF et Sport et Musique. Le 3 janvier 1960, sur le programme national, qui est la première station de la RAI, bah, ils proposent un programme qui s'appelle Tutto e calcio minuto per minuto, tout simplement en français, tout le foot minute par minute. C'est le début du multiplex moderne comme on le connaît aujourd'hui.
Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi.
Al comunale di Torino, Juventus 1, Cagliari 1, a voi Milano.
All'inizio della ripresa, internazionale 0, la Nerossi Vicenza 0, a voi Bologna.
Bologna 0, Brescia 0, a voi Roma.
A Roma al secondo della ripresa, Lazio 3, Palermo 0. A voi Genova.
Parte in questo momento il tiro, spiove in aria, colpo di testa di un difensore, all'indietro anziché in avanti, Leonardi ostacolato, calcio di rigore! Calcio di rigore in questo momento concesso per fallo commesso su Leonardi. Il Cagliari si porta attorno allo bello.
Donc ça c'était un extrait hein, du programme italien Tutto il calcio minuto per minuto de la RAI, un multiplex de football de 1970.
Là, dans ce qu'on a écouté, on a tous les ingrédients du multiplex. Certes, c'est une autre gang, mais on peut très bien s'imaginer ça chez nous aujourd'hui. On a Roberto Bertoluzzi qui est au studio et en fait qui appelle un à un ses commentateurs pour leur donner la parole avec le résultat et ce qui se passe dans chaque stade. L'émission, ça devient rapidement un énorme succès en Italie. Et ce succès, il est lié à l'essor d'une nouvelle technologie, c'est celle du transistor. Et va apparaître l'image dans les stades de ses supporters avec ses petites radios collés à l'oreille, ils sont assis dans les tribunes du stade et en temps réel, ils suivent également ce qui se passe dans les autres stades.
C'est vrai que pour remettre dans le contexte, hein, fin des années 60, voilà, il est beaucoup plus aisé, beaucoup plus courant d'écouter la radio au moyen d'un transistor, quoi.
On parlait au tout départ de la radio comme une écoute collective autour du salon parce qu'il y avait très peu de postes. Là, à cette époque-là, ça a changé et ça permet aussi l'essor de nombreux programmes au football. De football et de sport, en fait. On va chercher des programmes plus personnalisés parce que chacun peut écouter bah, sa petite radio avec son programme favori.
Et du coup, l'écoute y est simplifiée, mais aussi la captation avec le Nagra.
En France, il est utilisé en premier par Europe 1 dès sa création en 55 et il va très rapidement s'imposer, en fait. C'est léger, c'est pratique et ça permet aussi de recueillir quelques bandes-son qu'on peut écouter plus tard. Donc, on a le transistor, on a le Nagra et la troisième révolution, ça va être la modulation de fréquence. Qui va apparaître et qui va offrir un moyen pour les radios de proposer d'autres programmes.
Oui, en fait, il faut dire qu'il n'y avait pas forcément le même programme, que ce soit sur les grandes ondes ou en FM.
C'est tout à fait ça. Et en fait, c'est la modulation de fréquence qui va même faire sortir le football en France. Ça va se jouer dans les saisons suivantes en France, où les cases de football vont bouger. Les matchs de foot en France se jouent maintenant le mardi, le mercredi, le vendredi ou le samedi. La question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait du foot? C'est quand même le programme roi. Est-ce qu'on continue à le diffuser ou non? Bah oui, grâce à la modulation de fréquence. Et ça va d'abord se jouer avec des micro-programmes. Et donc, ça se joue à l'occasion notamment de cette première journée de championnat de France de première division en 69. On est même le 6 août 69 pour être précis. Donc, Inter, pour coller à cette nouvelle programmation, extirpe son multiplex du traditionnel sport et musique pour proposer entre 22h08 et 22h15, ce tout petit créneau, sur les ondes longues, en fait, les dernières minutes des 8 rencontres qui étaient programmées ce jour-là. Donc, le programme, il se place entre la fin du journal Interactualité de 22h et la deuxième partie de l'émission Pop Club de José Arthur. À l'époque, c'est une totale nouveauté et même une improvisation de dernière minute. En fait, cette émission, elle est même pas mentionnée dans le conducteur de la journée de France Inter. Il semble qu'elle aura été proposée vraiment dans les dernières heures par André Vibal, qui était le responsable du service des sports, et validée par Roland Dordain, qui était directeur de la radiodiffusion de RTF, quasiment le jour même. C'est ce qu'on voit en tout cas dans le bulletin d'après-diffusion.
Et donc ce petit module d'une dizaine de minutes, eh ben, il est finalement diffusé d'août 69 jusqu'en 1975.
C'est plutôt un succès et donc du coup, ils vont le garder. Le présentateur ne va pas changer, ce sera un Guingane qui va orchestrer ce mini multiplex. Donc alors comment ça se passe techniquement? Le journaliste, il est présent en studio et il entreprend ce qu'on appelle le tour des stades. Donc il va appeler sur chaque stade le journaliste qui est présent, qui lui du coup va rappeler le score et faire un petit reportage de ce qui s'est passé sur son stade, avec notamment donc le score et le nom des buteurs. Donc une fois que c'est effectué, tous les reporters donnent les commentaires des dernières minutes des matchs, donc c'est plus détaillé, ils font vivre le match sur les quelques minutes qui leur restent. Et à la fin de chaque match, donc il y a un court résumé avec les temps forts des rencontres. Donc le programme, il se conclut par un rappel des résultats de la soirée et le classement du championnat. Donc c'est très court et très concis, et à la fois ça mérite d'être mené un peu par une main de maître. On découvre sur les stades, avec ce petit programme, quelques futurs grands noms du journalisme sportif français. Donc on va découvrir Pierre Loctin, Pierre Sagviac, notamment Jacques Vendroux. Cette formule, elle va être communément rebaptisée le spécial but, et toutes les radios concurrentes, en tout cas les généralistes, vont s'en inspirer, RTL, Europe numéro 1 ou RMC. Donc la concurrence fait rage entre les quatre radios généralistes sur le terrain du multiplex. Chacune redouble d'inventivité pour devenir la radio du foot.
Et on peut lire dans tes articles que l'année 1975 marque un véritable tournant dans l'histoire du multiplex de football.
Tout va s'enchaîner très vite en 75. Le premier fait, c'est que samedi 4 octobre 75. À l'époque, donc c'est un peu les challengers RTL et Europe 1, donc les radios privées, qui inaugurent une nouvelle formule dans leur multiplex. Ça s'appelle le quart d'heure par quart d'heure. En gros, c'est un système qui permet de faire le point sur l'évolution des scores des matchs qui se disputent. Il y a un journaliste qui est présent au studio et qui intervient donc chaque quart d'heure entre 20h30 et 22h15 pour offrir un tour d'horizon des rencontres avec notamment le résultat et le nom des buteurs. Il va éventuellement appeler un ou deux journalistes présents sur les stades des grosses rencontres. Puis, à partir de 22h20, on va retrouver le fameux spécial but. Donc les auditeurs, ils bénéficient des commentaires des rencontres qui viennent de se terminer, qui sont en train de se terminer, avec intervention des envoyés spéciaux qui sont présents sur les stades, notamment pareil pour les 2, 3, 4 plus gros matchs de la soirée. Les autres scores sont également communiqués, le nom des buteurs et les classements, ça ne change pas.
Donc cette concurrence des stations périphériques va pousser France Inter à innover dans sa programmation. Le vendredi 17 octobre 1975, donc soit une semaine après le lancement du quart d'heure par quart d'heure par RTL et Europe 1, la station France Inter propose à ses auditeurs un multiplex intégral des 9 rencontres de la soirée.
Là c'est pareil, ça va très vite. La réaction de France Inter, on voit ce que fait les concurrents, alors on change tout chez nous. 17 octobre 75, c'est simplement le jour et la date du premier multiplex intégral à la radio française, il est présenté par Guingane. Donc sur les 9 rencontres de la soirée, on retrouve les journalistes vedettes du service public, Jacques Vendroux, Pierre Loctin, Jean-François Rhin, Fabrice Baguedan. Donc à Guingane, donc c'est le journaliste animateur, ça ne change pas, il présente l'émission en studio, un peu comme un chef d'orchestre. Donc tous les reporters sont en retour total, c'est-à-dire qu'ils entendent tout ce qui se dit sur l'antenne et peuvent réagir à n'importe quel moment dès qu'il se passe quelque chose sur le stade. Les correspondants interviennent tous les 10 minutes pour donner un flash de grand rencontre. C'est le fameux tour des stades. Donc l'émission est baptisée Interfootball. Elle est dans un premier temps présentée par Jean-Paul Brouchon, qui est directeur du service des sports de Radio France, jusqu'en 80, avant que Pierre Loctin lui succède, pendant près de 8 saisons, puis Jacques Vendroux, qui participe à l'émission en tant que radio-reporter depuis sa création, comme on l'a vu tout à l'heure, est promu chef d'orchestre en 1988. Il va devenir la figure emblématique de l'émission en l'incarnant pendant plus de 20 ans sur France Inter.
Jacques Vendroux, c'est vrai que c'est la grande figure du sport sur France Inter. Alors, on n'a pas retrouvé le générique des débuts, mais on en a un à proposer qu'on a retrouvé sur le site de l'INA qui date de 2003. On s'écoute tout de suite le générique et le lancement du multiplex Interfootball, justement avec Jacques Vendroux.
Interfootball avec le quotidien aujourd'hui en France.
Le ballon pour Zidane et but ! But de l'équipe de France !
Extraordinaire but de Jean-Michel Larquet !
Mais il veut l'équiper ! Oui ! Mais il veut qu'il la met au fond !
Quel but phénoménal de la Giresse !
Eugène Kéké, il marque le but !
Tire de Dominique Vatney ! Le gardien Clément s'est battu !
Platini qui tire, Michel Platini le garde !
Dominique Rocheteau est insaisissable ! Troisième but d'Éric Pécou ! Le but marqué par Zidane, le deuxième !
La tête de Serge Maisonnet, Jean-Paul Garfondemann est battu !
Une émission préparée et présentée par Jacques Vendroux.
Voilà, Emmanuel Petit qui marque, l'équipe de France qui est championne du monde. But de Trezeguet, c'est exceptionnel. La France, championne d'Europe de football, c'est officiel, c'est sûr, c'est certain. Il ne peut plus rien nous arriver. La France est championne du monde. La France, championne d'Europe de football.
Oh, le but de Camara pour le Sénégal.
Deuxième but de Ronaldo face aux Allemands.
Réalisation Martine Delisle avec la collaboration des journalistes de France Inter, France Info et des locales de France Bleu. Retrouvez Interfootball en direct sur le net www.franceinter.com.
Bonsoir, il est 19h pour cette émission spéciale Interfootball, aujourd'hui en France, consacrée au football. On est ensemble de 19h à 22h.
Donc finalement, cette émission Interfootball sur France Inter, c'est le multiplex tel qu'il est connu aujourd'hui, quoi.
Tout à fait, c'est ça. Là, on installe totalement la forme moderne du multiplex qui va être repris par les concurrents, Europe 1 en 82, RMC en 89, et les derniers à s'y mettre, ça va être RTL en 1993.
Alors tu évoques Europe 1 et on peut pas terminer cette première partie sans parler de la voix du foot d'Europe 1, Eugène Saccomanno.
Eugène Saccomanno qui nous a quitté maintenant il y a un peu plus d'un an, en octobre 2019, à l'âge de 83 ans. Bah, Eugène Saccomanno, c'est tout simplement la voix du foot à la radio dans les années 90-2000, notamment dans ses innombrables commentaires de matchs sur Europe. Donc, il avait démarré comme pigiste dans le sud, au Provençal, avant de devenir correspondant pour Europe 1, et ensuite devenir à la capitale dans leur bureau parisien en 72. Ça va devenir donc la voix du foot et même le directeur des sports de la station.
Et donc c'est lui qui a créé en 96 la première émission quotidienne sur le sport à la radio, Europe Sport. Je te propose d'écouter un extrait d'Eugène Saccomanno à l'antenne d'Europe. C'était au moment de la victoire hein, de l'équipe de France en Coupe du Monde de football en 98. Écoutez, c'est juste mythique.
Avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. 3-0, on les a assommés, on les a renversés.
Bon, tu vois, moi, je suis pas trop fan de foot, mais c'est vrai que c'est une voix vraiment mythique, quoi. C'est cette voix de Eugène Saccomanno, c'était sur Europe 1 en 1998.
Ça a marqué totalement des générations. On peut parler de Saxi. Bah, j'invite ceux qui écoutent le podcast à réécouter notamment son commentaire également 93 sur le but de Marseille en finale en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions de Basic Bogey, qui est totalement mythique. C'est vrai que Gianluca Comano, il a marqué la radio par ses commentaires, mais pas que. Et c'est là où c'est une figure totalement, totalement révolutionnaire, en s'inspirant notamment des commentaires sud-américains et des émissions italiennes.
Prochain épisode sera consacré à ces émissions d'un genre nouveau que lui a créé. Hein. Il a créé en 98 le match du lundi. Donc c'est la première émission débat autour du sport. Pour ceux qui sont sur Des Ondes Vocasse Premium, vous retrouverez cette partie-là un petit peu avant tout le monde. Donc rendez-vous sur premium.vocasse.fr pour devenir membre dès maintenant. Et en attendant, vous qui nous écoutez, hein, si vous avez d'autres infos, d'autres archives, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vocasse.fr et sur Twitter, @AnthonyGouraud, ANTHONYGOUI2RAUD. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode, Johnny, et puis pour les plus impatients, le lien vers tes articles se trouve dans la description. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocasse, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert pour les crédits musicaux, Rob It's a Blast, la BO de Radio Star. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Rendez-vous également sur notre site web vocasse.fr. Le prochain épisode sera publié début janvier 2021. À très bientôt. Ciao.
Des Ondes Vocasse.